S'il avait pu être certain que O'Brien mentait, cela n'aurait pas eu d'importance, mais il était parfaitement possible qu'O'Brien ait vraiment oublié la photo. Et si c'est le cas, alors il aurait déjà oublié son refus de s'en souvenir et oublié l'acte de l'oubli. Comment peut-on être sûr que c'est de la simple tromperie ? Peut-être que cette dislocation lunatique de l'esprit pourrait se produire vraiment. C'est la pensée qui l'a vaincu. O'Brien le regardait en réfléchissant. Il avait plus que jamais l'air d'un professeur qui se donne du mal pour un enfant égaré, mais qui promet. « Il y a un slogan du parti qui traite du contrôle du passé », a-t-il déclaré. « Répète-le, s'il te plaît. » « Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. » répétait Winston avec obéissance. « Qui contrôle le présent, contrôle le passé, » dit O'Brien, hochant la tête avec une lente approbation. « Est-ce que c'est ton opinion, Winston ? Que le passé a une existence réelle ?» Une fois de plus, le sentiment d'impuissance s'empara de Winston. Ses yeux se dirigèrent vers le cadran. Non seulement il ne savait pas si « oui » ou « non » était la réponse qui le sauverait, mais il ne savait même pas quelle réponse il croyait être la vraie. O'Brien sourit faiblement. « Tu n'es pas un métaphysicien, Winston, » dit-il. « Jusqu'à ce moment, tu n'avais jamais considéré ce que l'on entend par existence. Je vais te le dire plus précisément. Est-ce que le passé existe concrètement dans l'espace ? Y a-t-il quelque part ou ailleurs un monde d'objets solides où le passé continue de se manifester ? Non. Alors où se trouve le passé, si tant est qu'il existe ? Dans les archives. Il est écrit. Dans les registres et... Dans l'esprit. Dans les souvenirs humains. Dans la mémoire. Très bien. Alors, nous, le parti, contrôlons tout et nous contrôlons tous les souvenirs. Ensuite, nous contrôlons le passé, n'est-ce pas ? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir de certaines choses ? C'est écrit à Winston, oubliant à nouveau momentanément le cadran. C'est involontaire, c'est en dehors de soi-même. Comment pouvez-vous contrôler la mémoire ? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. Les manières d'O'Brien se sont à nouveau durcies. Il posa la main sur le cadran. « Au contraire, dit-il, tu ne l'as pas contrôlé. C'est ce qui t'a amené ici. Tu es ici parce que tu as échoué dans l'humilité, dans l'autodiscipline. Tu n'as pas fait l'acte de soumission qui est le prix de la santé mentale. Tu as préféré être un fou. Une minorité d'un fou. Seulement l'esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Tu crois que la réalité est quelque chose d'objectif, d'externe, d'existant à part entière. Tu penses également que la nature de la réalité est évidente. Lorsque tu te berces d'illusions en pensant que tu vois quelque chose, tu supposes que tous les autres voient la même chose que toi. Mais je te le dis, Winston, cette réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit individuel qui peut faire des erreurs et en tout cas périr rapidement, seulement dans l'esprit du parti qui est collectif et immortel. Tout ce que le parti détient pour être la vérité est la vérité. Il est impossible de voir la réalité sauf en regardant à travers les yeux du parti. C'est le fait que tu dois réapprendre, Winston. Il faut un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Tu dois t'humilier avant que tu ne puisses devenir saint d'esprit. Il s'arrêta quelques instants comme pour lui permettre d'assimiler ce qu'il avait dit avant. « Te souviens-tu, poursuit-il, en écrivant dans ton journal la liberté et la liberté de dire que 2 plus 2 font 4 ?»«
Oui, » déclara Winston.
O'Brien leva la main gauche, le dos tourné vers Winston, avec le pouce caché
et les quatre doigts étendus. « Combien de doigts je te montre, Winston ?»«
4. »«
Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 ?»«
Alors, combien ?»«
4. » Le mot se termina par un râle de douleur. L'aiguille du cadran avait atteint 55. La sueur s'était répandue sur tout le corps de Winston. L'air s'est déchiré dans ses poumons et ressortait en gémissements profonds qui, même en serrant les dents, ne pouvait pas s'arrêter. O'Brien le regardait, les quatre doigts toujours tendus. Il tira le levier vers l'arrière. Cette fois, la douleur n'était que légèrement apaisée.
« Combien de doigts, Winston ?»«
4. » L'aiguille monta à 60.
« Combien de doigts,
Winston ?»«
4. »«
4. » »« Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?»«
4. »
L'aiguille dut se relever, mais il ne l'a pas regardée. Le visage lourd et sévère et les quatre doigts remplissaient sa vision. Les doigts se dressaient devant ses yeux comme des piliers, énormes, flous et semblant vibrer, mais sans aucun doute. 4.
Combien de doigts, Winston ?
4. Arrêtez. Arrêtez. Comment pouvez-vous continuer ?
4. 4.
Combien de doigts, Winston ?
5.
5.
5.
Non, Winston, ça ne sert à rien, tu mens. Tu penses toujours qu'il y en a 4. Combien de doigts, s'il te plaît ?
4.
5. 4. Tout ce que vous voulez, mais arrêtez. Arrêtez la douleur. » Il fut soudain assis. Le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Il avait peut-être perdu connaissance pendant quelques secondes. Les liens qui avaient maintenu son corps en place se sont relâchés. Il avait très froid. Il tremblait de façon incontrôlable. Ses dents claquaient, des larmes coulaient sur ses joues. Pendant un moment, il s'accrocha à O'Brien comme un bébé, curieusement réconforté par le bras lourd autour de ses épaules. Il avait le sentiment qu'O'Brien était son protecteur, que la douleur était quelque chose qui venait de l'extérieur, d'une autre source, et que c'était O'Brien qui le sauverait. « Tu apprends lentement, Winston, » dit doucement O'Brien.
« Comment puis-je l'empêcher ?»
dit-il en pleurnichant. « Comment puis-je m'empêcher de voir ce qui est devant mes yeux ?
Deux et deux font 4. »
« Parfois, Winston, parfois, ils font 5. Parfois, ils font 3. Parfois, ils font tout en même temps. Tu dois faire plus d'efforts. Il n'est pas facile de devenir sain d'esprit. » Il allongea Winston sur le lit. L'étreinte de ses membres s'est resserrée, mais la douleur s'est atténuée, et les tremblements avaient cessé, le laissant simplement faible et froid. O'Brien fit signe de la tête à l'homme en blanc, qui était resté immobile pendant toute la procédure. L'homme en blouse blanche se pencha et regarda attentivement dans les yeux de Winston, sentit son pouls, posa une oreille contre sa poitrine, tapa ici et là, puis il fit un signe de tête à O'Brien. « Encore !» dit O'Brien. La douleur envahit le corps de Winston. L'aiguille doit être à 70, 75. Il avait fermé les yeux cette fois. Il savait que les doigts étaient toujours là et qu'il y en avait encore 4. Tout ce qui importait était de rester en vie d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que les spasmes se terminent. Il ne savait plus s'il pleurait ou non. La douleur s'atténua à nouveau. Il ouvrit les yeux. O'Brien avait tiré le levier en arrière.
« Combien de doigts, Winston ?»«
4. »«
Je suppose qu'il y en a 4. »«
J'en verrai 5 si je pouvais. J'essaie d'en voir 5. »«
Que veux-tu ?»«
Me persuader que tu en vois 5 ou les voir vraiment ?»
Vraiment les voir.
Encore une fois, dit O'Brien. Peut-être que l'aiguille était à 90. Winston ne pouvait se souvenir que par intermittence de la cause de sa douleur. Derrière ses paupières abîmées, Une forêt de doigts semblait se déplacer, dans une sorte de danse, entrelacer, disparaître et réapparaître les uns derrière les autres. Il essayait de les compter, il ne pouvait pas se rappeler pourquoi. Il savait seulement qu'il était impossible de les compter et que c'était d'une manière ou d'une autre en raison de la mystérieuse identité entre 5 et 4.
La douleur se calma à nouveau.
Quand il ouvrit les yeux, c'était pour constater qu'il voyait toujours la même chose. D'innombrables doigts, comme des arbres en mouvement, surgissaient dans l'une ou l'autre direction, en se croisant et recroisant. Il ferma ses yeux à nouveau.
« Combien de doigts je tiens, Winston ?»«
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me tueras si tu fais ça à nouveau. 4, 5, 6, en toute honnêteté, je ne sais pas. »«
Mieux !» dit O'Brien.
Une aiguille s'est introduite dans le bras de Winston. Presque au même moment, une chaleur salutaire et curative s'est répandue dans tout son corps. La douleur était déjà à moitié oubliée. Il ouvrit les yeux et les leva avec reconnaissance sur O'Brien. À la vue du lourd visage bordé si laid et si intelligent, son cœur semblait se retourner. S'il avait pu bouger, il aurait tendu le bras et posé la main sur le bras d'O'Brien. Il n'avait jamais aimé cet homme aussi profondément qu'en ce moment, et pas seulement parce qu'il avait fait cesser la douleur. L'ancien sentiment qu'au fond, peu importait qu'O'Brien fût un ami ou un ennemi, était revenu. O'Brien était une personne avec qui on pouvait parler. Peut-être ne voulait-on pas être aimé au point d'être compris. O'Brien l'avait torturé jusqu'au bord de la folie, et dans peu de temps, c'était certain, il l'enverrait à la mort. Mais cela ne faisait aucune différence. Dans un certain sens, cela allait encore plus loin que de l'amitié. Ils étaient intimes. D'une façon ou d'une autre, bien que les mots réels ne seraient peut-être jamais prononcés, il y avait un lieu où ils pourraient se rencontrer et parler. Les yeux d'O'Brien, baissés sur lui, avaient une expression qui faisait penser qu'il avait la même idée. Quand il se mit à parler, ce fut sur le ton aisé d'une conversation. Il dit « Sais-tu où tu es, Winston ?»«
Je ne sais pas, je peux le deviner. Dans le ministère de l'amour. »«
Sais-tu depuis combien de temps tu es ici ?»«
Je ne sais pas. Des jours, des semaines, des mois, je pense que c'est des mois. »«
Et pourquoi penses-tu que nous amenons les gens en ce lieu ?»«
Pour les faire avouer ?»«
Non, ce n'est pas la raison. » Essaye encore.
Pour les punir ?
Non !
S'exclama O'Brien.
Sa voix avait changé de façon extraordinaire, et son visage était soudain devenu à la fois sévère et animé. Non ! Pas seulement pour obtenir vos aveux, pas pour vous punir. Dois-je te dire pourquoi nous t'avons amené ici ? Pour te guérir, pour te rendre sain d'esprit. « Sais-tu, Winston, qu'aucun de ceux que nous amenons dans ce lieu ne nous quitte malade ? Les crimes stupides que vous avez commis ne nous intéressent pas. Le parti ne s'intéresse pas à l'acte lui-même. Il ne s'occupe que de l'esprit. Nous ne détruisons pas simplement nos ennemis, nous les changeons. Comprends-tu ce que je veux dire ?»
Il était penché sur Winston. Son visage semblait énorme à cause de sa proximité, et hideusement laid parce qu'il était vu d'en bas. De plus, il était rempli d'une sorte d'exaltation, d'une intensité folle. Une fois de plus, le cœur de Winston se serra. Il se serait enfoncé plus profondément dans le lit si cela eût été possible. Il était évident qu'O'Brien était sur le point de faire tourner le cadran gratuitement. À ce moment, cependant, O'Brien s'est détourné. Il fit un ou deux pas, puis il continua avec moins de véhémence.
La première chose que tu dois comprendre, c'est que dans ce lieu, il n'y a pas de martyrs. Tu as lu des articles sur les persécutions du passé. Au Moyen-Âge, il y avait l'Inquisition, ce fut un échec. Elle fut établie pour éradiquer l'hérésie et finit par la perpétuer. Pour chaque hérétique brûlé sur le bûcher, des milliers d'autres se levèrent. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition tuait ses ennemis au grand jour alors qu'ils étaient encore impénitents. En fait, elle les tuait parce qu'ils étaient impénitents. Les hommes mouraient parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur vraie croyance. Naturellement, toute la gloire appartenait à la victime et toute la honte à l'Inquisition qui la brûlait. Plus tard, au XXe siècle, il y eut les totalitarismes, comme on les appelait. Il y avait les nazis allemands et les communistes russes. Les Russes ont persécuté l'hérésie plus cruellement que l'Inquisition l'avait fait. Et ils ont imaginé qu'ils avaient appris des erreurs du passé. Ils savaient, en tout cas, que l'on ne doit pas faire de martyrs. Avant qu'ils n'exposent leurs victimes à un procès public, ils se sont délibérément attachés à détruire leur dignité. Ils les ont usés par la torture et la solitude, jusqu'à ce qu'ils soient méprisables. Des êtres misérables qui confessaient tout ce qu'on leur mettait à la bouche, qui se couvraient eux-mêmes d'injures, se mettaient à couvert en s'accusant mutuellement, demandaient grâce en pleurnichant. Et pourtant, après seulement quelques années, le même phénomène s'est produit à nouveau. Les hommes morts sont devenus des martyrs et leur déchéance était oubliée. Une fois, encore une fois, pourquoi ? Tout d'abord parce que les aveux qu'ils avaient obtenus étaient manifestement extorqués et faux. Nous ne faisons pas d'erreur de ce genre. Tous les aveux qui sont prononcés ici sont vrais. Nous les rendons vrais. Et surtout, nous ne permettons pas aux morts de se dresser contre nous. Tu dois arrêter d'imaginer que la postérité te donnera raison, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de toi. Tu seras gazéifié et versé dans la stratosphère. Rien ne restera de toi, pas un nom sur un registre, pas un souvenir dans un cerveau vivant. Tu seras annihilé dans le passé comme dans le futur. Tu n'auras jamais existé. Alors pourquoi prendre la peine de me torturer ? Pense à Winston, avec une amertume momentanée. O'Brien stoppa sa marche comme si Winston avait prononcé cette pensée à haute voix. Son grand visage hideux se rapprocha, les yeux un peu plus fermés. « Tu penses, dit-il, que puisque nous n'avons pas l'intention de vous détruire complètement, rien de ce que vous dites ou faites ne peut avoir d'importance ?» Et qu'il n'y a aucune raison pour que nous prenions la peine de vous interroger d'abord, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas ?
Oui, dit Winston.
O'Brien sourit légèrement. Tu es un défaut dans le tableau, Winston. Tu es une tache qui doit être effacée. Ne t'ai-je pas dit tout à l'heure que nous sommes différents des persécuteurs du passé ? Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la soumission la plus abjecte. Lorsque vous vous rendez enfin, vous devez le faire de votre plein gré. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Tant qu'il nous résiste, nous ne le détruisons jamais. Nous le convertissons. Nous capturons son esprit intérieur, nous le remodelons. Nous brûlons tout le mal et toute illusion en lui. Nous le ramenons à nos côtés, non pas en apparence, mais véritablement, cœur et âme. Nous faisons de lui un de nous-mêmes avant de le tuer. Il est intolérable pour nous qu'une pensée erronée devrait exister partout dans le monde, aussi secret et impuissant soit-il. Même à l'instant de la mort, nous ne pouvons permettre aucune déviation. Dans le passé, l'hérétique marchait au bûcher, toujours hérétique, proclamant son hérésie, en exultant. Même la victime des purges russes pouvait porter la rébellion enfermée dans son crâne pendant qu'il descendait les marches en attendant la balle. Nous rendons le cerveau parfait avant de le faire éclater. Le commandement des anciens despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « tu dois ». Notre commandement est « tu es ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse plus jamais contre nous. Tout le monde est lavé. Même ces trois misérables traîtres, en l'innocence desquels vous avez cru un jour, Jones, Aronson et Rutherford, à la fin, nous les avons brisés. J'ai moi-même participé à leur interrogatoire. Je les ai vus s'épuiser peu à peu, gémir, ramper, pleurer. Et à la fin, ce n'était ni de douleur ni de crainte, c'était de repentir. Lorsque nous en avons eu fini avec eux, ils n'étaient plus que des coquilles vides d'hommes. Il n'y avait plus rien en eux, si ce n'est du chagrin pour ce qu'ils avaient fait et de l'amour pour Big Brother. C'était touchant de voir à quel point ils l'aimaient. Ils ont supplié pour être rapidement fusillés, afin qu'ils puissent mourir alors que leur esprit était encore propre. La voix d'O'Brien était devenue presque rêveuse. L'exaltation, l'enthousiasme fou étaient encore sur son visage. « Il ne faisait pas semblant, » pensait Winston. « Ce n'est pas un hypocrite, il croit chaque mot qu'il dit. » Ce qui l'a le plus opprimé, c'est la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il regardait la forme lourde mais pleine de grâce qui marchait au hasard de long en large à l'intérieur ou à l'extérieur du champ de sa vision. O'Brien était un être à tous égards plus grand que lui-même. Toutes les idées qu'il avait jamais eues ou pu avoir, O'Brien les avait depuis longtemps connues, examinées et rejetées. L'esprit d'O'Brien contenait l'esprit de Winston. Comment O'Brien pourrait-il, dans ce cas, être fou? Ce devait être lui, Winston, qui était fou. O'Brien s'arrêta et le regarda. Sa voix était redevenue sévère. « N'imagine pas que tu vas te sauver, Winston, même si tu t'abandonnes complètement à nous. Aucun de ceux qui se sont égarés une fois n'a été épargné. » Et même si nous choisissions de te laisser vivre, jusqu'à son terme naturel, tu ne nous échapperais jamais. Ce qui t'arrive ici est pour toujours. Comprends cela d'avance. Nous t'écraserons jusqu'au point de non-retour. Tu ne pourras pas te remettre de ce qui va t'arriver, même si tu vivais encore 1000 ans. Jamais plus tu ne seras capable de sentiments humains ordinaires. Tout sera mort de l'intérieur. Plus jamais tu ne seras capable d'amour, ou d'amitié, ou de joie de vivre, ou de rire, ou de curiosité, ou de courage, ou d'intégrité. Tu seras creux. Nous te presserons à vide. Et alors, nous te remplirons de nous-mêmes. Il s'arrêta, fit signe à l'homme en blouse blanche. Winston était conscient qu'un lourd appareil était poussé et placé derrière sa tête. O'Brien s'était assis à côté du lit, de sorte que son visage était presque au niveau de celui de Winston. « 3000 », dit-il en parlant par-dessus la tête de Winston à l'homme en blouse blanche. Deux coussinets moelleux qui paraissaient légèrement humides furent fixés contre les tempes de Winston. Il trembla. La souffrance allait recommencer. Un nouveau genre de souffrance. O'Brien posa sur sa main une main presque rassurante et amicale. « Cette fois, ça ne fera pas mal, » dit-il. « Garde les yeux fixés sur les miens. » À ce moment, il y eut une explosion dévastatrice, ou ce qui semblait être une explosion, bien qu'il ne soit pas certain qu'il y ait eu du bruit. Il y eut sans aucun doute un éclair aveuglant de lumière. Winston ne fut pas blessé, seulement prostré. Bien qu'il était déjà allongé sur le dos lorsque la chose s'est produite, il avait la curieuse sensation d'avoir été frappé dans cette position. Un terrible coup, indolore, l'avait aplati de l'extérieur. Il s'était également passé quelque chose dans sa tête. Tandis que ses yeux retrouvaient leur convergence, il se rappela qui il était, où il était, et reconnut le visage qui regardait le sien. Mais il y avait, il ne savait comment, un grand trou vide, comme si on lui avait enlevé un morceau de cerveau. « Cela ne durera pas, » déclara O'Brien. « Regarde-moi dans les yeux. Avec quel pays l'Océanie est-elle en guerre ?
Winston réfléchit. Il savait ce que signifiait Océanie et qu'il était lui-même citoyen de l'Océanie. Il se souvint aussi de l'Eurasia et de l'Estasia. Mais qui était en guerre et avec qui ? Il ne s'en souvenait pas. En fait, il n'avait pas conscience qu'il y eut une guerre.
Je ne m'en souviens pas.
L'Océanie est en guerre avec l'Asie du Sud-Est. Tu t'en souviens maintenant ?
Oui.
L'Océanie a toujours été en guerre avec l'Asie du Sud-Est, depuis le début de ta vie, depuis le début du parti. Depuis le début de l'histoire, la guerre a continué sans interruption, toujours la même. Tu t'en souviens ?
Oui.
Il y a 11 ans, tu as créé une légende à propos de 3 hommes qui avaient été condamnés à mort pour trahison. Tu as prétendu avoir vu un morceau de papier qui prouvait qu'ils étaient innocents. Un tel morceau de papier n'a jamais existé. Tu l'as inventé. Et plus tard, tu as commencé à y croire. Tu te souviens du moment même où tu l'as inventé pour la première fois ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Oui.
À l'instant même, j'ai levé mes doigts vers toi. Tu as vu 5 doigts, tu t'en souviens ?
Oui.
O'Brien leva les doigts de sa main gauche avec le pouce dissimulé. Il y a 5 doigts là, vois-tu 5 doigts ?
Oui.
Et il les vit. Pendant une minute fugitive, tandis que dans son esprit le décor changeait, il vit 5 doigts, et il n'y avait aucune déformation. Et puis tout est redevenu normal, et la vieille peur, la haine et l'ahurissement sont revenus en force. Mais il y avait eu un moment, il ne savait pas combien de temps, 30 secondes peut-être, de certitude lumineuse. Quand chaque nouvelle suggestion d'O'Brien remplissait un espace vide et devenait une vérité absolue, alors que 2 et 2 auraient pu faire 3 aussi bien que 5, si cela avait été nécessaire. Ce moment s'était effacé avant qu'O'Brien eût baissé la main, mais bien que Winston ne pût le retrouver, il pouvait s'en souvenir, comme on se souvient d'une expérience très nette ayant eu lieu à une époque reculée de la vie, quand on était en fait une personne différente.
Tu vois, maintenant, dit O'Brien, qu'en tout cas c'est possible.
Oui, dit Winston. O'Brien se leva avec un air satisfait. À sa gauche, Winston vit l'homme en blouse blanche casser une ampoule et retirer le piston d'une seringue. O'Brien se tourna vers Winston avec un sourire. Il remit presque à l'ancienne ses lunettes sur le nez. « Tu te souviens d'avoir écrit dans ton journal, dit-il, que peu importe que je sois un ami ou un ennemi, puisque j'étais au moins une personne qui comprenait et à qui on pouvait parler. » « Tu as raison. J'aime parler avec toi. Ton esprit m'interpelle. Il ressemble à mon propre esprit, sauf que le tien est fou. Avant de mettre fin à la session, tu peux me poser quelques questions si tu le souhaites. »
Une question qui me plaît.
N'importe quoi.
Il vit que les yeux de Winston fixaient le cadran.
Il est éteint. Quelle est ta première question ?
Qu'avez-vous fait de Julia ? Dit Winston.
O'Brien sourit à nouveau. Elle t'a trahi, Winston. Immédiatement et sans réserve. J'ai rarement vu quelqu'un venir si promptement à nous. Tu la reconnaîtrais à peine. Toute sa rébellion, sa fourberie, sa folie, sa malpropreté d'esprit, tout a été brûlé et effacé. C'était une conversation parfaite, un cas d'école.
Vous l'avez torturé ?
O'Brien n'a pas répondu à cette question. Question suivante, dit-il. Est-ce que Big Brother existe ?
Bien sûr qu'il existe.
Le parti existe. Big Brother est l'incarnation du parti.
Existe-t-il de la même manière que moi ?
Tu n'existes pas, dit O'Brien. Une fois de plus, le sentiment d'impuissance l'assaillit. Il connaissait, ou pouvait imaginer, les arguments qui prouvaient sa propre inexistence. C'étaient des absurdités,
C'était seulement un jeu de mots. La déclaration « vous n'existez pas » ne contenait-elle pas une absurdité logique? Mais à quoi servait-il de le dire? Et alors? Son esprit s'est contracté en pensant aux arguments irréductibles, fous avec lesquels O'Brien le démolirait. « Je pense que j'existe. » dit-il avec lassitude. « Je suis conscient de ma propre identité. Je suis né et je vais mourir. J'ai des bras et des jambes. J'occupe un point particulier dans l'espace. Aucun autre objet solide peut occuper le même point simultanément. Dans ce sens, est-ce que Big Brother existe ?
Cela n'a pas d'importance. Il existe.
Big Brother va-t-il mourir un jour ?
Bien sûr que non.
Comment pourrait-il mourir ?
Question suivante.
Est-ce que la fraternité existe ?
Ça, Winston, tu ne le sauras jamais.
Si nous choisissons de te rendre la liberté quand nous en aurons fini avec toi, et si tu vis jusqu'à 90 ans, tu ne sauras jamais si la réponse à cette question est oui ou non. Tant que tu vivras, ce sera une énigme non résolue dans ton esprit.
Winston se tut. Sa poitrine se souleva et tomba un peu plus vite. Il n'avait toujours pas posé la question qui était venue à son esprit en premier. Il devait la poser. Mais il lui semblait que sa langue ne voulut pas la prononcer. Il y eut une ombre d'amusement sur le visage de O'Brien. Ses lunettes elles-mêmes semblaient jeter une lueur ironique. « Il sait, » pensa Winston soudainement. « Il sait ce que je vais lui demander. » C'est à cette pensée que les mots jaillirent. « Qu'y a-t-il dans la salle 101 ?» L'expression du visage d'O'Brien ne changea pas. Il répondit sèchement. « Tu sais ce qu'il y a dans la salle 101, Winston ? Tout le monde sait ce qui se trouve dans la salle 101. » Il leva le doigt vers l'homme en blouse blanche. Évidemment, la session s'acheva. Une aiguille s'enfonça dans son bras. Il sombra presque instantanément dans un sommeil profond.